Nous vous souhaitons la bienvenue au Café Libre où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial. Un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc issus d'une rigoureuse sélection pour discuter avec elle et eux et débattre des sujets d'actualité autour du libre et des libertés informatiques. Aujourd'hui avec moi, autour de la table, Isabelle Carrère, membre d'Antanac, pour qui elle fait notamment des chroniques régulièrement dans Libre à vous.
Bonjour.
Florence Chabanois, responsable ingénierie, fondatrice de la place des Grenouilles et membre corps de Tech Rocks.
Bonjour tout le monde.
Et enfin Pierre Bessac, informaticien, libriste de longue date et fondateur d'Eriomen.net.
Bonjour tout le monde.
N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le Saint-Lô web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Je précise également que, comme nous en avons pris l'habitude, vous pouvez aussi nous retrouver au Café Libre sur Peertube, l'émission étant exceptionnellement diffusée en vidéo, en direct. Je précise qu'Isabelle préfère ne pas apparaître sur la vidéo, donc vous l'entendrez, mais vous ne la verrez pas. Merci à mon collègue Fred d'assurer cette diffusion depuis le studio de la régie. Alors, pour commencer, je vous propose de démarrer par une nouvelle que je trouve assez réjouissante. L'État allemand du Schleswig, ou ça commence bien, du Schleswig-Holstein, excusez-moi pour les germanophones, donc cet État, ce land allemand du nord de l'Allemagne, va abandonner Windows et Microsoft Office. Les 30 000 employés vont progressivement travailler sur un environnement purement logiciel libre, un land allemand qui couvre quand même une population de 3 millions d'habitants, donc voilà, pour donner un peu l'échelle, qui se situe donc dans le nord de l'Allemagne. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle? Qui veut se lancer?
Alors, moi, je veux bien
Vas-y, Isabelle. Par dire
deux, trois choses, même si je ne suis peut-être pas la mieux placée, mais je trouve ça intéressant parce que ça n'est qu'un premier pas qui est fait là, et qu'il y a d'autres pas qui vont se continuer, si j'ai bien compris, et notamment jusqu'en 2026. Et ça va commencer par la libération du traitement de texte et de tout ce qui est bureautique. Ça commence simplement, ce qui est déjà bien, par LibreOffice. Bon, c'est super. Ce que je trouve très intéressant, c'est de regarder, parce que le sujet lui-même, il est bien. On ne peut que se réjouir de voir des gens qui passent au libre, évidemment, où que ça soit dans le monde. Et d'ailleurs, je rappelle qu'à cette occasion, il y avait eu d'autres éléments. J'ai trouvé des petits articles aussi qui ont peut-être fait moins de bruit que l'Allemagne. J'ai trouvé ça rigolo parce qu'en fait, il y a eu en Turquie précédemment, il y a eu la même chose. Il y a eu un morceau de la Turquie, une institution qui a fait la même opération, et on n'en a pas, voilà, c'était la municipalité turque de, je ne vais pas le prononcer bien non plus, mais Eyüp Sultan, qui est passé également au libre. Et alors je trouve ça très intéressant que ça soit qu'on fasse un grand bruit, parce que j'ai cité celui-là, et je pense qu'il doit y en avoir d'autres ailleurs dans le monde que la petite ville turque. Je trouve ça intéressant qu'on fasse un grand barouf pour l'Allemagne, qui tente, bon, bref, c'est drôle. En tout cas, on espère qu'ils ne vont pas lâcher. Ce que disent beaucoup les médias, moi j'ai vu, je ne sais pas si vous avez regardé un peu plusieurs articles là-dessus, mais ce que j'ai vu dans les médias différents qui en parlent, c'est qu'il y a d'une part, on cite évidemment la question de la gratuité, comme étant le sujet central de pourquoi ce choix est fait, ce qui est quand même un peu dommage, que ça soit présenté comme ça. Je ne dis pas que c'est ça qui est voulu par les Allemands, mais en tout cas c'est comme ça que c'est présenté. Et l'autre grand axe qui est présenté, c'est aussi la question de, qui n'est pas très très bien présentée, je trouve, c'est le pourquoi commencer par cet outil-là de la bureautique et comment la suite va se faire. C'est hyper discret. J'ai trouvé que dans un ou deux articles, le fait qu'il y avait un choix sur quelle distribution, quel OS, GNU/Linux allait être pris, etc. Je trouve ça intéressant comme biais.
Oui, tu l'as dit, donc il y aura ce qui est prévu, c'est 5 étapes de ce que j'ai pu lire. Et effectivement, de commencer, c'est souvent le cas, j'ai l'impression, enfin, dans les migrations réussies, c'est de commencer étape par étape, pas essayer de faire tout d'un coup. Mais ce qui est intéressant, tu l'as dit, c'est que dans ces étapes, il y a aussi le système d'exploitation pour avoir vraiment un vrai poste de travail libre. Et ça, c'est une ambition qui passe toujours là. Souvent, on s'arrête voilà, peut-être à des logiciels métiers, à des logiciels de bureautique, ce qui est déjà très bien, mais vraiment penser l'intégralité du poste de travail, c'est une ambition qui est quand même aussi à souligner, qui est intéressante. Pierre ?
Oui, l'expérience est super intéressante parce qu'il y a eu des précédents, il y a peut-être 10-15 ans, en Bavière notamment, à Munich, où il y a eu un retour en arrière, en fait. Il y a eu un déploiement de logiciels libres qui a dû être annulé, en fait.
Munich, c'était plus que... Pardon, juste pour donner ce contexte. Oui. Munich, c'était plus qu'une parenthèse, que c'est en 2003-2004, ils ont fait une migration vers le logiciel libre, qui était plutôt saluée comme étant une vraie réussite, et qui a duré une quinzaine d'années, enfin jusqu'en 2017, donc c'est un peu moins de 15 ans. Donc c'était vraiment, il y a eu un retour en arrière à ce moment-là. Donc c'est, oui, c'est oui. pas seulement un échec, c'est qu'il y a eu un retour en arrière à l'occasion de changement de majorité.
Oui, tout à fait. Oui, j'avais effectivement. Voilà, il y a eu des choses qui n'étaient pas toujours, qui n'ont pas toujours avancé dans le bon sens, on va dire. Voilà. Mais cette expérience montre que, enfin, il y a quand même une évolution en maturité des offres libres qui permet quand même d'arriver à des choses. Je sais que moi, je me suis mis à la bureautique sur le tard parce que ça me cassait les pieds d'utiliser du Windows. Hein. Mais maintenant, il y a des outils bureautiques tout à fait corrects en libre depuis des années maintenant. Et donc, c'est une preuve qu'il faut un petit peu laisser mûrir le libre pour arriver à des offres tout à fait pertinentes en fait. Et après, il y a aussi le côté plaque de spaghetti d'un environnement tel que Windows, où comme tu le disais, il peut y avoir des logiciels métiers qui tournent que sous Windows, donc c'est pas forcément facile d'en sortir, de sortir d'un écosystème une fois qu'on y est complètement dedans. Donc ça peut être pas mal de commencer par remplacer les outils bureautiques et puis voir au fur et à mesure ce qu'on peut remplacer ou pas, mais c'est plutôt positif. Et ça pose aussi la question de la souveraineté. J'avais vu un des articles, je crois que c'était The Register, une pièce d'opinion, enfin une chronique dans The Register, qui est un journal britannique en ligne consacré aux technologies d'information et au libre, et qui expliquait que aujourd'hui, avec les nouvelles législations américaines type FISA qui oblige les sociétés américaines, mais pas juste maintenant les hébergeurs, ça peut être aussi les éditeurs de logiciels, les gestionnaires de centres de données, à collaborer avec les renseignements américains. On ne sait pas exactement à quelle source on va être mangé en termes de renseignements américains, et on n'a aucune parade législative possible en Europe, puisque ce sont des lois qui, par définition, sont des lois américaines extraterritoriales et où on demande à des... On peut demander, enfin, l'État américain peut demander à des prestataires, des sociétés américaines, de violer la loi européenne. Donc, la protection législative européenne n'est pas suffisante. Et donc, il faut, ça met en valeur l'utilité du logiciel libre pour se protéger d'ingérences potentielles. Alors, les Américains sont peut-être pas, ils ciblent peut-être pas particulièrement l'Europe, c'est peut-être d'autres régions qui ciblent, mais voilà, si on veut être vraiment sûr de, il y a quand même des problèmes d'intelligence économique qui peuvent se poser derrière. Donc voilà, ça pose tout un tas de questions autour de l'adoption du libre sur la durée en fait.
Tout à fait, et visiblement, et peut-être que c'est une nouveauté relative, c'est cette place de la question de la protection des données personnelles. Qui était peut-être moins présente et qui l'est notamment par l'application extraterritoriale du droit américain, qui est du coup une des motivations de ce que j'ai compris de ce land allemand. Florence, quelle est ta lecture de cet événement ? Après, on pourra rentrer peut-être plus en détail sur les points que vous souhaitez, mais...
Ah bah en effet, beaucoup de choses ont été dites. Oui. Moi, j'ai aussi vu la partie souveraineté numérique. Le côté, nos administrés nous font confiance et du coup, on a une responsabilité de protection et de sécurité de ces données-là. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement récent, pour le coup, dans les choix de migration, alors que la gratuité est arrivée beaucoup plus souvent. Alors, en lisant cet article, personnellement, j'étais quand même un peu surprise parce que je me disais, LibreOffice, c'est facile, non, comme migration. Et en plus, je suis étonnée qu'il y ait un article parce qu'il me semble qu'il y a des écoles. Enfin, ça me semblait quand même assez courant comme type de migration. Et après, j'ai compris effectivement que le fait de migrer aussi des OS, ça, par contre, c'est plus rare que ce soit global. Et surtout qu'on fasse un bilan, qu'on se dise, on va pas juste faire la migration sans se dire au bout d'un moment qu'est-ce que ça a apporté ou détruit par rapport au fait que tout changement est douloureux et que du coup l'interopérabilité par rapport au reste du monde va énormément peser, je pense, dans le sentiment de réussite ou pas. Et du coup, j'espère qu'il y aura d'autres landes qui vont les rejoindre parce que même si ça fait partie, ça a été posé comme des critères de base, l'interopérabilité, si on apparaît juste comme des gens qui font différents des autres, c'est vrai que c'est un peu compliqué sur la durée, quoi.
C'est vrai que l'existence de formats libres, comme les formats de LibreOffice, et puis la possibilité de relire aussi les formats des suites Windows, aide beaucoup à ce genre de migration, parce que ça n'a pas toujours été aussi facile qu'aujourd'hui.
Ce que mettait, pour rebondir sur ce que tu disais, mettait en avant l'article du Register que tu as mentionné, et on voit que c'est vraiment pas seulement des questions techniques en réalité, qu'il y a des vrais enjeux géopolitiques derrière, de rapports de force politique, et que Microsoft, en l'occurrence, mais ce n'est pas le seul, quand on parle des géants du numérique, pour reprendre ce vocable, ont un poids politique énorme, Et on voit qu'il y a tout un enjeu, et c'est ce que disait cet article du Register, qu'il y a là, sur ce cas-là, ce n'est pas, ça ne se joue pas qu'au niveau de ce land, mais Microsoft a peur de cet effet boule de neige qui fait que finalement, une région va se libérer, va en entraîner d'autres, et donc il y a des très forts efforts de lobbying, et c'est pour ça, par exemple, en France aussi, il y a Nancy qui était un exemple de municipalité, de collectivité qui avait fait du libre changement de majorité, et puis voilà, c'est aussi de la fragilité de ces choses-là, donc l'importance de bien les ancrer, de les penser dans le temps, donc on espère que ce land allemand va bénéficier des erreurs, entre guillemets, du moins des échecs relatifs du passé pour toujours mieux réfléchir et mieux avancer. En tout cas, voilà, il y a un enjeu important. Vas-y, Isabelle.
C'est juste un truc à rajouter quand même. Moi, ça m'étonne beaucoup. Effectivement, quand j'ai lu, j'ai eu la même réflexion que Florence. Je me suis dit, LibreOffice, ça va, c'est bon. Moi, il y a 30 ans, je faisais des formations sur LibreOffice au ministère de l'Environnement en France, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas le grand... le grand choc. En plus, LibreOffice, c'est quand même une communauté qui a fait les choses super bien, c'est-à-dire qu'elle les a faites pour que ça ressemble. Je défie quiconque, là, maintenant, d'aller me trouver des trucs qui marcheraient dans les documents .doc de Word versus les documents de LibreOffice Writer. Enfin, voilà, donc il y a vraiment des gros efforts qui ont été faits là-dessus. Il y a des gros efforts parce que LibreOffice fonctionne sur des plateformes Linux, mais aussi sous Windows, et ils ont même fait des versions pour Mac. Je veux dire, ils ont vraiment travaillé là-dessus, sur ce champ-là. Donc là, maintenant, encore en 2024, on dit « Oh, waouh, faisons un accompagnement du changement pour aller sur LibreOffice », ça me fait trop marrer, quoi. C'est vraiment pas sérieux. Qu'on fasse travailler les informaticiens, informaticiennes, sur des choses, un peu plus sérieuses, entre guillemets. C'est-à-dire, oui, la sécurité, les données, les plateformes, les annuaires, enfin, tous ces machins-là dans des entreprises, ou là, dans un État, ou dans une municipalité, etc., dont acte. Mais LibreOffice, ça va, quoi.
Mais est-ce qu'on n'a pas un biais, là, de personnes aussi qui ont des compétences informatiques, qui ont une vision? C'est facile, mais en même temps, il y a les usages. On sait comment les usages peuvent être très ancrés. Oui, il peut y avoir des résistances, ne serait-ce que... Alors, je suis d'accord que c'est pas le plus difficile, mais en fait, j'en sais rien. Pour moi, c'est une évidence. Mais quand il y a des services entiers qui ont l'habitude avec le chef ou la chef qui est là, qui utilise Microsoft et qui a pas conscience qu'il y a des enjeux derrière, est-ce que c'est pas quand même un premier cran à enclencher qui est quand même pas si anodin que ça, et qui, au contraire, justement, parce qu'il peut être plus facile, parce que les formations sont accessibles, qu'il y a plein de compétences qui existent autour.
Je sais pas.
Je pense que tout seul, ça joue pas tellement, mais après, ce changement, il est fragile, en effet. S'il est tout seul, je pense que là où il y a quand même un tournant, c'est le fait que ce soit tout un écosystème. Et aujourd'hui, avec LibreOffice, il y a SharePoint aussi qui va migrer dans le cadre de ce land-là. Et du coup, c'est dans tous les usages qu'on a en entreprise ou dans une administration, à quel point tout va bien se communiquer facilement. Dans le sens, je peux sauvegarder facilement, je peux l'échanger facilement. Et je pense que c'est là où peut-être il y a une nuance où le fait de dire, ah non, moi, je suis sur Google, toi t'es sur Microsoft, et du coup avec les partenaires de galérer un peu parce qu'on parle pas la même langue, ça peut être un frein. Mais c'est vrai que j'espère qu'on ira plus loin que LibreOffice. Hein.
Voilà, oui. Comme première étape, mais pas comme étape exclusive.
Absolument.
Oui.
Il y a quand même une forte présence dans les esprits encore de Microsoft, parce que il y a encore des gens qui parlent, enfin, il y a encore beaucoup de gens, même la plupart des gens parlent de feuilles Excel, ils parlent pas de feuilles de tableur ou documents Word, et donc, sais pas, je me rends pas bien compte, effectivement, par rapport à ce que dit Florence, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont collés à Word ou à Excel au point de pas pouvoir changer d'outil? Excel, il y a des fonctions assez particulières dedans. Word, je ne connais pas. Donc ça peut être un frein au changement. Après, c'est vrai que pour 95% des usages, on n'a pas besoin d'avoir des trucs très...
Ouais, mais ce que je veux dire, surtout...
LibreOffice peut remplacer sans souci pour pratiquement tout le monde.
C'est quand même cette habitude-là, c'est un truc de consultant, hein, l'accompagnement du changement. Hein, c'est pas une chose dont on a besoin obligatoirement tout le temps.
Ça donne du service avant.
ça fait du service avant, pendant, après. Enfin bref, vous savez très bien. Il y a ça. Et puis il y a surtout que du coup, ça permet de pas parler des vrais sujets. Par exemple, comme tu le dis, les espaces collaboratifs, ou pouvoir partager des documents, pouvoir avoir une plateforme libre. Enfin, ça serait des vrais sujets sur lesquels on pourrait mettre en avant les choses, quoi, plutôt que juste un tableur, un traitement de texte et puis un diaporama. Oui, c'est vrai que les gens ils disent, ouais, tu vas me faire un PowerPoint au lieu de dire tu vas faire un diaporama. Oui, c'est vrai. Bon, je le vois tous les jours moi en Tanac, tous les jours des gens qui disent, mais est-ce que je vais avoir Word et Excel sur l'ordinateur que vous me donnez? Oui, bon, ok, mais ça va quoi. Ça va. Je veux dire, c'est au niveau. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des individus, des particuliers viennent, et des gens qui sont éloignés d'eux, pour qui ça va être le premier ordinateur, que eux réagissent comme ça, je peux comprendre. Qu'après, que des gens sur des informaticiennes, ce que je ne suis pas, pour un État, allemand ou peu importe d'où il est, le présente comme ça, je dis, c'est pas sérieux. Mmh. Voilà. Je veux dire, est-ce qu'on peut pas aller plutôt sur le fond de c'est quoi d'utiliser des logiciels libres, c'est quoi d'avoir des systèmes d'exploitation libres, quelles sont les valeurs qu'on veut mettre en avant là ou pas, où est-ce qu'on va? Si ça n'est que de la question économique, d'accord, ou que de la question pour cette souveraineté numérique qui certes est importante, mais qui pour moi n'est pas suffisante, parce que cette souveraineté numérique, elle est juste la façade de ce dont il est question derrière en termes capitalistes, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut?
Vas-y, Florence. Ça me soulève une autre question par rapport à ce que tu dis, parce que pour moi, aujourd'hui, Microsoft, c'est quand même en perte de vitesse, même sur les outils bureautiques, au profit de la suite Google. Donc en effet, on ne dit pas... moi, je dis encore Excel, alors que c'est des spreadsheets, bon, je m'embrouille, après je dis tableur, voilà. Mais on n'a pas ces sujets-là pour une migration de Microsoft vers Google. On ne parle pas de transition, alors que les outils sont complètement différents. Et c'est parce qu'on parle de libre que là, on en fait... en tout cas, on a une perception ou une... des a priori à négatif, où c'est quelque chose qu'il va falloir accompagner, que ce sera douloureux, alors que bah, c'est complètement différent sur Google par rapport à Microsoft, et que là, comme on parle de entre GAFAM, pas de problème, quoi. Là, ce sera instinctif.
C'est ça. Ce sont des imaginaires, et je pense qu'on revient souvent, c'est une bataille culturelle, sur imposer, enfin sortir plutôt de ce qui nous est imposé comme étant des normes informatiques, celle de Microsoft ou de Google, pour ne citer que. Il y avait une citation, alors je pense qu'elle est attribuée plus, mais dans un des articles qui dit, alors donc je cite cet article, « Le Land n'a pas non plus caché le fait que les budgets publics, et donc l'argent des contribuables, mais on y revient, seraient mieux investis dans de véritables services de programmation de l'économie numérique nationale plutôt que dans le paiement de droits de licence. » Et je trouve que c'est toujours intéressant aussi de voir, finalement, quand on loue, ça que ça distingue, c'est-à-dire qu'on loue un service finalement qu'on ne maîtrise pas du tout, hein, une location par licence, ou alors on investit et quand même on devient aussi propriétaire, et pas tout seul, puisque c'est ce qui est investi au niveau de ce land-là, en fait, peut bénéficier à n'importe qui d'autre, puisque c'est du logiciel libre. Et je trouve toujours intéressant quand cette approche est prise en compte par les décisionnaires, parce que j'ai l'impression que c'est pas toujours le cas, et j'ai trouvé que ça a montré une certaine maturité peut-être sur la question. Alors je suis sans doute très optimiste, mais je trouvais intéressant que cet aspect-là de la question ressorte. Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur ce sujet, ou on passe à notre... Alors ça, c'était l'entrée, j'imagine, le plat principal, ou bon, il n'y a pas forcément de hiérarchie, mais en tout cas, au notre café suivant. On avance. Alors, j'ai pas la clochette, je ferai un petit ding. Et je vous propose un sujet... alors, Fred... Ah, pardon, je pensais que tu venais interagir. Excuse-moi. Il ne s'est rien passé. Je vous invite à nous retrouver sur PeerTube si vous voulez voir les coulisses de l'émission. Vous pouvez retrouver le lien, d'ailleurs, si vous voulez nous suivre sur PeerTube, sur le site de la radio. Donc, sujet suivant, alors qui est moins réjouissant, mais que je trouve néanmoins intéressant. Il y a eu une vague de compromissions qui a touché le cœur de nombreuses distributions GNU Linux via du code malveillant, et qui a débouché sur une porte dérobée dans les bibliothèques XZ. Alors, je vais être complet, dans XZ version 5.6.0 et 5.6.1. XZ étant un format de compression de données à usage général présent dans presque toutes les distributions GNU Linux. Alors, je passerai soit la parole à Florence ou à Pierre. On va déjà peut-être poser quelques éléments de compréhension. Par exemple, c'est quoi une bibliothèque, c'est quoi une distribution. Je pense que tout le monde voit un peu, mais peut-être remettre en deux trois mots, voilà, qu'on ait un peu ces éléments.
Et c'est
partagés.
Quoi une compromission.
Et c'est quoi une compromission.
C'est quoi une chaîne d'approvisionnement.
Voilà.
Et il y a plein de termes. À
voilà.
Expliquer pour que les gens
le sujet est complexe
peu,
pour ça.
Ouais. Ouais.
Et on sait que les sujets de sécurité informatique, pour ça, je pensais que c'était important d'en parler, sont sujet en fait récurrent dans l'actualité, récurrent aussi dans les craintes. On a tendance parfois à voir le logiciel libre, enfin, dans certains imaginaires, le logiciel libre peut être perçu comme quelque chose de plus fragile, alors qu'en réalité, on sait que techniquement, c'est même plutôt plus robuste du fait que ce soit dans cette transparence partagée. Mais ça, justement, on va y revenir dans nos conversations. Alors, je veux bien, voilà, quelques éléments de compréhension, de définition. Vas-y, Florence.
qu'est-ce que tu as demandé? Donc, la partie.
Alors, c'est quoi une bibliothèque? Déjà, est-ce que c'est une faille de sécurité sur une bibliothèque? XZ.
On dirait un utilitaire. Donc, c'est un bout de code c'est un outil qu'on va utiliser dans d'autres logiciels. Et du coup, qu'on incorpore dans notre code pour pouvoir fournir un autre service.
Est-ce que c'est comme une brique pour construire une maison?
C'est bien ça. Ouais. C'est comme une brique pour construire une maison. C'est comme le ciment utilisé pour faire un mur ou une brique. Et du coup, c'est quelque chose qu'on utilise indirectement. Du coup, si il y a une faille justement dans le ciment ou la brique pour construire le mur, ce qui est le cas ici dans le cadre de cette librairie, tout le mur est compromis. Et du coup, dans ce cadre-là, au niveau de la compression, c'est quelque chose qui est utilisé dans énormément de logiciels et dans, comme tu l'as souligné, comme la quasi-totalité. Pour moi, c'était même la totalité des systèmes d'exploitation, parce que sinon, c'est-à-dire que tout prend la place maximale.
La compression, c'est vraiment une question de diminution d'espace. C'est comme les points zip dans le monde.
Absolument.
C'est pas le nôtre, là,
oui.
C'est ça.
Oui. Non, mais c'est ça, effectivement, c'est les points zip, c'est rare. C'est, on ne le voit pas, c'est transparent pour les utilisatrices et utilisateurs, mais c'est quelque chose qu'on a partout, dans tous les échanges sur Internet ou même à l'intérieur, parce qu'en termes de stockage, ça peut jouer. Et est-ce qu'il y avait d'autres termes déjà à clarifier? Tu veux bien me...
Alors, compression, distribution. Bon, les distributions, c'est... distribution, voilà. J'ai parlé de distribution GNU Linux.
C'est système d'exploitation, pour le coup. Enfin, c'est une version... Enfin, c'est pas vraiment une version, mais... c'est comme une marque, on va dire. C'est une marque d'OS.
Oh, un ensemble d'outils, je sais pas. Ouais. Un ensemble d'outils avec le centre du système qui est le noyau. Donc, tout clé en main pour avoir quelque chose d'utilisable.
Super. Et il y a une émission, j'ai pas le numéro en tête, mais si vous tapez sur le site librevous.org, vous tapez distribution, on avait fait une émission sur le sujet, si c'est la question vous intéresse. Alors je pense qu'on a peut-être balisé les principaux éléments de compréhension technique en termes
j'ai
de.
J'ai l'impression que.
Parce qu'on a parlé dans l'article effectivement sur lequel on est dessus là. La question de la compromission, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire une compromission dans un système informatique?
C'est un peu comme une faille. Là, ça s'assimile facilement à un cheval de Troie, enfin dans le sens mythologie, j'entends, même si c'est pas proprement dit un cheval de Troie en termes de compromission, mais c'est que quelque chose qu'on fait, la façon dont c'est censé interagir, quelqu'un d'autre ou un autre système est venu corrompre ça et faire en sorte que ça ne marche pas comme c'est prévu pour le coup.
D'accord, donc c'est vraiment une action humaine d'un développeur, une développeuse quelque part ailleurs qui est venue sur cet outil-là.
Oui. C'est quoi, comme une sorte de pot de vin en version version logicielle. Tu détournes quelque chose de son usage premier.
Il y a vraiment quelque chose de malveillant quand on dit compromission pour le coup. C'est pas juste oups, j'ai un accident.
Parce que moi j'avais pas assez... parce que on sait des failles de sécurité. Il peut y en avoir dans tout logiciel, libre ou pas, et la plupart du temps, c'est fait parce qu'il y a eu une erreur ou parce qu'un lien entre deux bouts de code va pas fonctionner comme prévu et que des personnes pourront en profiter. Compromission, et là, c'est le cas, c'est que là, il y a eu une action, enfin, ces failles-là ont été mises volontairement, ce qui est très rare dans le logiciel.
C'est une attaque,
c'est vraiment une attaque volontaire organisée.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça a été monté, parce que c'est une attaque extrêmement sophistiquée, en fait, sur la durée. En fait, déjà, XZ, c'est un format de compression particulier. Donc c'est des fichiers qui ont l'extension .xz. Donc on n'en voit pas tous les jours. C'est pas le format le plus répandu. Et les attaquants en fait, parce que manifestement ils sont plusieurs, le truc est trop bien organisé pour que ça vienne d'une seule personne, se sont attaqués à ce logiciel là qui était en gros mono auteur, avec un auteur qui était un petit peu à la fois il avait des soucis personnels alors il a dit qu'il avait des problèmes d'ordre psychologique, enfin il était un peu épuisé, il avait pas beaucoup de temps à consacrer au logiciel parce que c'est quelque chose de bénévole de sa part, et il y a des bons samaritains qui sont arrivés en lui disant t'inquiète pas, on va t'aider pendant 2 ans, ils l'ont aidé à faire évoluer le logiciel, à faire de nouvelles versions, à ajouter des fonctionnalités. Et puis, un jour, discrètement, ils ont rajouté la faille, en fait. Petit à petit, ils ont acquis sa confiance sur la durée. Enfin, il y a une personne, notamment, qui a acquis sa confiance sur la durée. Donc, c'était assez vicieux, en fait. Il a fait des choses, des modifications complètement anodines, des évolutions de logiciel normal. Et puis, un jour, une fois qu'il a eu les droits suffisants sur le logiciel pour pouvoir faire les modifications lui-même sans vérification par l'auteur initial, donc il a acquis des droits au fil du temps aussi, il a fini par introduire la faille qui est assez subtile parce qu'elle est pas dans le code principal, donc celui que tout le monde regarde, tout le monde inspecte. Elle était dans les jeux de test, en fait. Elle était planquée dans des jeux de test qui servent à vérifier que le logiciel, une fois compilé, une fois assemblé, fonctionne correctement. Donc c'était caché là et ça n'était activé que lors de la préparation du logiciel pour le mettre dans une distribution Linux ou autre. Donc c'était pas visible dans le code source habituel. Et ensuite, une fois que le truc a été, disons, validé, ils ont poussé côté distribution pour le faire avancer le plus vite possible dans les distributions. Et par ailleurs, ils se sont aussi débrouillés pour le faire intégrer dans un outil qui s'appelle SSH, qui est un outil de connexion à distance, qui n'a pas besoin de XZ, en fait, ou très peu. Donc ils ont réussi à le faire entrer par la bande là-dedans pour introduire la vulnérabilité cherchée, qui était d'avoir une porte dérobée dans les connexions à distance des administrateurs système. Donc vraiment, c'est un truc en plusieurs étapes. Et alors ça a été découvert quasiment par hasard par quelqu'un qui venait d'installer le logiciel.
Alors, j'ai le nom Andreas Freund, un développeur Postgres.
Voilà. Développeur Postgres, d'accord. Oui. Et je crois qu'il est bossé chez Microsoft, le monsieur.
Ça, je ne saurais pas dire.
J'ai cru voir ça quelque part. Donc un jour, il se servait de SSH. Il a vu que SSH mettait un petit peu de temps, plus de temps que normal, pour établir une connexion. Ça mettait, quelque chose comme une demi-seconde au lieu d'être instantané. Donc il a creusé, ce qu'on fait pas forcément. Quand un logiciel se traîne, on se dit bon, il y a un problème réseau, je sais pas. Donc il a creusé, il a découvert le poteau rose, et en fait il y a eu une sorte d'audit en fait de toute la communauté libre pour comprendre et remonter tous les éléments dont je vous ai fait part pour voir que l'attaque a été préparée de longue date. Donc c'est assez flippant parce que on l'a découvert un peu par accident. Le truc était très subtil mais pas assez subtil parce que à la fin ça a quand même été découvert relativement vite avant que ça soit diffusé dans tous les systèmes, mais ça fait un peu froid dans le dos de se dire que il pourrait y avoir d'autres attaques plus réussies. Il y en a peut-être eu d'ailleurs, on ne sait pas trop. Ce qui est rassurant, c'est de se dire qu'il y a quand même des gens vigilants et qu'on a pu remonter. Alors évidemment, on ne sait toujours pas d'où ça vient. Les personnes qui ont introduit la faille avaient des noms asiatiques, mais évidemment. Si ça vient d'un service secret asiatique, ils vont peut-être pas mettre des noms asiatiques donc ça peut absolument rien dire. Et donc voilà, ça a mis en garde en fait toute la communauté logicielle sur logiciel libre notamment sur comment éviter ça à l'avenir. Ça ne met pas spécialement en cause plus particulièrement le logiciel libre parce que on n'aurait pas pu remonter les traces aussi facilement si ça avait été dans un logiciel propriétaire. On l'aurait peut-être même pas encore découvert, parce qu'il y a eu des cas similaires dans les logiciels propriétaires, des insertions de code malveillante par des employés ou par des gens pareils qui venaient aider. Donc voilà, ça pose tout un tas de questions sur le développement de logiciels, la vérification de qualité, la protection contre les attaques, tout un tas de choses. Le développeur de Curl, qui est une autre bibliothèque très connue et également un outil énormément utilisé dans le web, c'est un des outils de référence pour faire des automates pour récupérer des pages web notamment. Donc je crois que c'est Daniel Sternberg qui s'appelle. C'est un outil très connu. Ils ont publié en réponse la liste des mesures qu'ils prenaient de leur côté, qu'ils avaient déjà prises d'ailleurs pour certaines, pour éviter qu'un cas similaire se produise dans Curl.
Mais là, ce que je comprends moi dans ce sujet-là pour XZ, c'est que c'est dans une version de développement. C'est-à-dire, en fait, c'est pendant des tests et des recettes, c'est ça qu'il a.
Oui,
c'était
alors
pas
c'est
pas sur une version stable de distribution.
Oui et non, parce que c'était dans l'étape de compilation. C'était planqué dans les jeux de test, mais c'était quand même utilisé à la compilation. Donc en fait,
Mais pour une version en cours de mise à jour.
Ah non, ça a été poussé dans des versions de production.
Dans les versions stables,
Alors là, vous parlez de version de production,
de
version
stable,
de distribution.
Oui. Par exemple, on a dit que ça n'avait pas attaqué toutes les distributions. C'est ce que je comprends. Ça a attaqué notamment Debian, Fedora, Arch Linux.
Bon, oui,
est-ce que tous les dérivés de Debian sont également concernés?
Alors pas MX, forcément, Linux, ça dépend Linux, à quelle vitesse ça percole dans les différentes mises à jour.
Voilà, d'où ma question, je pensais que c'était alors stable, pas stable. Oui, même moi je sais répondre.
Il y a des versions
qui sont faites pour le grand public et des versions qui sont faites
pour les personnes qui ont des compétences plus poussées, donc il y a des fonctionnalités qui sont pas encore validées
et qui sont uniquement accessibles. Pas embêtées si jamais il y a des choses qui marchent pas tout à fait comme elles l'attendent. Contrairement aux gens qui, comme moi, ont besoin de stabilité pour des choses et on prend que du long terme. Mais du coup, là-dessus, ce que vous dites tous les deux, c'est que ça a attaqué aussi les versions stables.
Certaines versions. Alors, je crois que c'était Red Hat qui a eu parce que, enfin, les attaquants ont quand même poussé au côté d'au moins une distribution Linux et je crois que c'était Red Hat sous réserve. Ils sont quand même intervenus sur des listes pour dire ouais, regardez, il y a la nouvelle version de XZ qu'il faudrait mettre à jour parce qu'elle a, dans votre distribution, parce qu'elle a des fonctionnalités super intéressantes.
Je vais laisser Florence réagir. Une question, tu pourras peut-être y répondre, mais pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être, en écoutant Libre à vous, en faisant un enlèchement Tanac ou pour une autre raison, ont chez eux installé une Debian, Arch Linux, Ubuntu, est-ce qu'il faut qu'ils s'inquiètent ou est-ce que justement ça a été, les correctifs ont été mis dans les mises à jour, est-ce qu'il faut mettre justement très vite à jour ce, voilà. Est-ce qu'il y a...
Ça a été supprimé. Bah, du coup, sur ta question, exactement, ce qu'il y a, c'est que c'était... Alors, pour répondre à ta question, déjà, dès que ça a été su, il y a une nouvelle mise à jour qui a été mise en place pour qu'on retire la version défaillante qui pose problème. Après, par rapport à ta question, Isabelle, sur les versions majeures, c'est une version majeure de XZ qui a intégré le problème. Et ça a impacté beaucoup de distributions. Donc, j'avais noté Red Hat, Fedora, Debian, OpenSUSE. Maintenant, là où je suis pas sûre, c'est si ça a touché une version stable de ces distributions. Par contre, c'était des versions officielles, c'était peut-être des versions mineures, je veux dire. Donc, on peut, en fonction de à quel point on met souvent à jour ces distributions, être impacté ou pas.
Okay. Ouais, de ce que disait Pierre, je vois deux choses. Effectivement, la réaction de la communauté de logiciels libres, la capacité, la robustesse aussi du fonctionnement en communauté, parce qu'il y a énormément d'utilisateurs, d'utilisatrices de XZ. Ouais. Mais un autre point, et ça m'a fait penser à une autre faille qui a été extrêmement connue, qui a fait beaucoup de bruit, c'est Heartbleed, il y a maintenant quelques années. Et j'ai l'impression qu'il y a un point commun, c'est qu'on a un logiciel libre critique. Alors, je sais pas si c'était aussi une bibliothèque, bref. Un logiciel libre critique utilisé par énormément de monde, mais maintenu par une seule personne ou très peu. Et c'est là où ça vient faire de la faille. Donc, quand il s'agit de réagir, la communauté est capable de se relever les manches et d'y agir collectivement. Mais on voit aussi toute l'importance. Et là, c'est bien, par exemple, je repense à l'actu d'avant, d'un land qui peut-être va mettre du temps de travail concret de personnes qui vont pouvoir contribuer à des logiciels critiques. Je sais que la Commission européenne, par certains financements, soutiennent peut-être sur, c'était en réaction à Heartbleed, mettre des financements pour soutenir. Donc il y a quand même aussi un enjeu par les pouvoirs publics ou les entreprises à éviter ces situations où un logiciel, une brique logicielle soutenue par une seule personne, maintenue par une seule personne. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est aussi un des nerfs de la guerre.
Heartbleed, c'était sur SSL EAY ou OpenSSL, je ne sais plus. Enfin, c'était lié à une bibliothèque de sécurité utilisée partout également et effectivement maintenue par très peu de gens.
Donc c'est un problème récurrent de mon regard néophyte, on va dire, sur la question. J'ai l'impression que c'est souvent une des questions, un des aspects.
Je pense qu'on est bien content quand il y a une personne qui passe sa vie, sacrifie sa vie justement à faire quelque chose qui sert à tout le monde. Et moi, je le voyais aussi effectivement comme un signal d'alarme, ce souci. Alors j'ai vu quelque part, je ne sais pas si tu as vu la même chose Pierre ou Isabelle, mais c'est que la personne, donc j'ai oublié le nom de l'auteur, enfin du commiteur principal, avait beaucoup de pression aussi pour lâcher les rênes et qu'il a fini par craquer sous la pression justement de la communauté qui lui disait évite le truck factor, partage un peu pour que tu vas pas
tout
factor,
seul. Le truck factor, c'était le seul à conduire le camion, le bus, etc. Exactement. Que si t'as un accident, plus personne n'est là pour le conduire. Ouais. Ah oui, donc il n'y a pas qu'un problème de personnes qui veulent contribuer, c'est aussi une question de pouvoir sur un logiciel.
Et... disons que quand on est chez nous, on a notre façon de faire et ça rajoute aussi du travail dans un premier temps de partager, de former, de faire confiance. Et c'est là où il y avait un peu d'amertume et d'ironie dans cette histoire, c'est que la personne ne faisait pas confiance. Et parce que c'était devenu une librairie qui est devenue, enfin qui était cruciale, on veut diminuer le truck factor, qui est le fait de lisser les risques sur plusieurs personnes, pour faire en sorte que si elle arrive quelque chose ou que la personne gagne au loto par exemple et s'en va, il ne travaille plus dessus, que les systèmes qu'il utilise puissent continuer à vivre. Et du coup, il a craqué, il a laissé ça. Après, ce qu'on entend un peu en sous-titre, c'est que les personnes qui font de l'open source le font sur leur temps libre, sont adulées et détestées à la fois, sont pas tellement protégées ou on prend pas de soin tellement d'elles et eux. Et ces personnes travaillent gratuitement. Donc autant la gloire, c'est cool, mais il y a pas que la gloire, il y a aussi les haters qui viennent avec dès que ça marche pas aussi bien partout ou qu'une fonctionnalité n'arrive pas assez vite. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut avoir quand même assez conscience.
Alors, tu vois, haters, c'est un anglicisme pour dire par les personnes qui s'énervent en ligne ou qui vont venir mettre...
Des harceleurs,
voilà.
Ouais. Alors, en fait, il y a les deux facettes parce qu'il y a quand même des grosses boîtes qui utilisent le libre et donc qui ont des développeurs typiquement Red Hat, par exemple, mais Google aussi, qui font de la contribution par des gens qui sont payés pour contribuer à du libre. Donc ça, c'est plutôt... Ça peut être pas mal, même si ça peut être provoquer des conflits d'intérêts. Mais inversement aussi, il y a aussi des boîtes qui utilisent des logiciels contributifs comme ça, avec des très peu de développeurs, enfin des développeurs bénévoles. J'ai déjà vu des développeurs bénévoles qui... sonner l'alarme entre guillemets en public parce qu'ils montraient le genre de messages qui se prenaient de sociétés pour qui tel le bout de logiciel libre était crucial pour leur business. Il y avait un bug dedans et ils leur disaient attention, nous on est en train de perdre beaucoup d'argent à cause des bugs, si vous pouviez vous dépêcher parce que ça va bien bah, mais il faudrait corriger ça vite fait. Et même les mecs même pas aimables hein, tu vois. Donc c'était donc il y a un peu ouais, il y a un peu des tensions là-dessus sur entre les intérêts commerciaux et la capacité des développeurs qui sont pas forcément payés pour ça et qui ne reçoivent pas forcément directement, enfin qui sont gratifiés par leur contribution et leur utilité, mais sur qui des gens qui sont eux payés pour ça tombent pour les faire avancer plus vite. Donc, c'est un peu.
Oui, et puis il y a ce que disait Étienne, ce que tu soulevais tout à l'heure, le lien avec notre sujet précédent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de pousser comme fonctionnement des pouvoirs publics, des institutions, etc., comme étant garant de quelque chose là-dessus, ou est-ce qu'il faut qu'ils mettent de l'argent, du financement, pour que, oui, mais pour que quoi, comment, enfin, je trouve que c'est pas évident, je trouve, comme sujet, de savoir... Ouais.
C'est tout le sujet qu'il faut faire évoluer de financement du libre, hein. Oui, c'est clair.
Et au-delà du financement, c'est aussi une question de gouvernance, et ce que disait Florent, c'est que là, en fait, aussi, la personne qui détenait, finalement, les droits d'auteur, et qui, donc, la maîtrise, enfin, le créateur du logiciel, avec cette maîtrise-là qui ne voulait pas lâcher, qui donc il n'y avait pas un vrai fonctionnement communautaire à la base, et puis finalement il a cédé à des pressions, du coup en fait ça il a mal cédé quelque part puisque ça
arrive, hein,
sans lui jeter de pierre parce que c'est bien sûr des questions
c'est
compliquées.
C'est très difficile.
Et je trouve une question peut-être intéressante. Alors je l'ai pas en détail, mais je sais que notamment, je pense que c'est pas les seuls. Ce qui m'intéresse, c'est la question de réaction peut-être des communautés libristes. Alors il y a celles qui ont participé à corriger le bug. Je sais que la fondation Eclipse, qui est une grande fondation, voilà, qui du logiciel libre a réagi, et peut-être voilà, quitte à avoir des failles, autant que ça produise du positif derrière sur comment, pour répondre à toutes les questions en fait qu'on se pose. Voilà, est-ce qu'il y avait des réactions, que ce soit celles d'Eclipse ou d'autres, que vous avez lues et qui vous ont paru poser des bases intéressantes d'évolution?
Pour moi, j'en ai pas vu beaucoup, hein, à part celle que j'ai citée de la communauté Curl, qui donnait qui expliquait ce qu'ils avaient eux fait de leur côté pour limiter ce genre de risque.
Du coup, par rapport à Eclipse, donc ils ont fait des specs communes de sécurité, donc que je trouve bien de cadrer avec des spécifications, des règles de bonnes pratiques de sécurité. Il y a plusieurs signataires déjà. Il y a Apache Software, Blender, PHP, Python, OpenSSL. Du coup, c'est déjà un bon signal dans la mesure où c'est des technologies qui sont assez répandues. Maintenant, dans les deux cas, que ce soit Curl ou Eclipse, pardon, je trouve ça intéressant, mais léger en vrai. Dans le sens où on passe un peu à côté du problème, et en rajoutant plus de règles, en vrai, on a un système qui a besoin de soutien et du coup qui s'est laissé berner, mais c'est difficile à voir. Est-ce qu'au bout de 5 ans, on s'en serait rendu compte si ils avaient mis plus de temps à insérer la faille? Je trouve qu'on passe à côté un peu du débat et de la problématique d'origine. Et du coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, moi je pense qu'il faut des moyens institutionnels réellement pour l'open source, et que je sais pas s'il y a une taxe, mais en tout cas qu'il y ait une contribution obligatoire quand on profite de l'open source. C'est ça qui assurera la pérennité et fera en sorte que y a le plus de sécurité possible. Par rapport à cet événement, quelque chose qui m'a marqué par rapport à un mythe qu'on peut avoir, c'est que le libre, on peut entendre que c'est quelque chose le plus sécuritaire possible, dans la mesure où tout le monde voit ce qui se passe. Et là où je trouve ça super intéressant, c'est qu'on est quand même passé. Enfin, maintenant, je me dis, y a des failles partout. C'est juste qu'on les connaît pas encore. Et en réalité, c'est comme une entreprise. Enfin, tant que c'est pas ni mieux ni moins ou moins risqué, c'est l'erreur est humaine, la confiance s'acquiert. Il n'y a pas de système parfait, quoi. Donc c'est un sujet qu'il faut continuer à creuser, je pense, à l'avenir, et toujours mettre en place des garde-fous d'une façon ou d'une autre. J'imagine.
Parce que ce que tu dis, moi, m'évoque quand même cette question, parce que là, on parle effectivement d'une bibliothèque logicielle que 99% de la population ne connaît pas, et c'est normal. Moi, je connaissais pas avant d'avoir lu cette info. Mais en fait, dont on dépend quasiment toutes et tous, parce que tant de parts de nos vies dépendent des réseaux informatiques. Ça faisait pas visiblement partie de ces éléments quand même présents, donc, qui font tourner quasiment tous les réseaux informatiques, dont on dépend donc assez largement. Et donc on voit l'intérêt quand même, presque comme un service public quelque part, de s'assurer que ce réseau informatique dont dépend l'exercice de nos libertés, nos interactions avec les administrations, nos interactions aussi entre nous, soit aussi fiable et aussi sûr que possible, quoi. Donc on voit quand même qu'il y a peut-être une certaine légitimité à se dire que notre contribution par l'impôt ou par d'autres choses, par nos organisations collectives, servent à s'assurer que ce réseau partagé fonctionne à peu près bien, quoi. Il ne repose pas sur un bénévole tout seul dans son coin, qu'on a les correctifs d'un temps, et puis comment on gère tout ça, quoi. En fait, il faut du logiciel libre partout.
Oui, tout en faisant attention à ce que s'il y avait une taxe ou s'il y avait des fonctionnements ou des financements ou des choses qui soient décidées ailleurs, que ça ne tue pas des pratiques ou des principes ou des façons de faire du logiciel libre au sens générique, et que ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, sur le OK, mais c'est une faille qui a été finalement vite vue par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer. Peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas vu ailleurs dans d'autres mondes propriétaires, il faut pas oublier ça quand même, et relativement vite réparé. C'est-à-dire que c'est quand même le bon côté de l'information, de la nouvelle. Et il faudrait pas, c'est touchy, il faudrait pas que tu aies des fonctionnements qui seraient soit une taxe, soit une obligation de quelque chose, soit parce que si un État ou une institution donne des moyens, généralement, il faut derrière qu'il y ait une vérification de qu'est-ce qui est fait avec
des procédures,
des procédures, oui. Et que ça n'alourdisse pas ou que ça ne tue pas tout simplement la liberté dont
on, t'as tout à fait raison,
on souhaite.
A fortiori pour des gens qui sont bénévoles, ils n'ont pas forcément envie de se casser la tête avec des procédures compliquées.
C'est aussi un libre, c'est le fork. Oui. C'est-à-dire que si on n'est pas très content, le code reste accessible et on peut vraiment sortir aussi d'une manière de faire, et on peut toujours proposer autre chose. Et c'est pour ça que c'est une liberté absolument fondamentale, quoi. Comme dans nos démocraties, moi j'aime bien prendre ce parallèle avec la liberté et le droit à l'insurrection, quoi. C'est qu'à partir du moment où juste que c'est tyrannique, on repart et on refait comme il nous semble plus juste. D'autres mots où on avance?
Un dernier mot, c'est que les failles volontaires. On a toujours le problème de la sécurité logicielle. On n'a pas trouvé de solution encore à ce jour. On n'est pas capable d'assurer qu'un logiciel n'a pas de faille et a fortiori n'a pas de bug.
Dire heureusement.
Peut-être. C'est encore le côté magique.
Il reste quelque chose d'humain
dedans.
C'est
ça, tout à fait. Ouais, oui,
on n'est pas parfait. Youpi.
Oui. Donc en fait, il peut y avoir des failles introduites volontairement, mais il y a aussi des failles introduites involontairement. Et donc les trous de sécurité, donc c'est pour ça qu'on a des mises à jour de système, etc. Et il faut savoir qu'il y a des attaquants qui sont très malins, qui n'essayent pas d'introduire des failles, parce que ça leur permettrait peut-être de remonter jusqu'à eux, mais qui se contentent d'utiliser les failles existantes et ils se débrouillent pour les connaître avant nous et les garder secrètes. Donc il y a tout un marché gris de consultants en sécurité qui découvrent des failles et qui ne les publient pas, qui les vendent au plus offrant, souvent des États d'ailleurs, qui s'en servent pour attaquer des systèmes sur des failles que personne d'autre qu'eux ne connaît.
Tout peut être transformé en marchandise.
Voilà, c'est assez particulier comme activité.
Il me semble qu'ils peuvent aussi les vendre à l'entreprise qui a commis la faille, pour le coup.
Alors oui aussi, oui, ça doit se faire aussi, mais c'est assez complet. Et après, il y a eu un exemple célèbre avec la NSA qui avait accumulé ce qu'ils appelaient le coffre au trésor de failles il y a peut-être 15 ans. Ils avaient toute une série de failles dans Windows notamment, sur lesquelles ils étaient obligés de dévoiler à Microsoft, aux éditeurs, mais en l'occurrence Microsoft notamment, au bout de 3 mois. La loi américaine les obligeait à les dévoiler au bout de 3 mois, mais ils les ont gardés pendant des années pour s'en servir en fait. Mmh. Et un jour, des pirates un jour, ça a fuité de chez eux. Ça a donné lieu à toute une série de virus. Il y a une quinzaine d'années. Attribués, qui ont été attribués aux Chinois, aux Russes, je sais pas qui d'autre. Donc il y a tout un monde obscur derrière tout ça en sécurité informatique qui est assez passionnant et très très compliqué.
Ouais, sujet complexe. Alors, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps sur ces deux premières actus, mais qui, mon sens, étaient vraiment aussi deux gros morceaux et méritaient qu'on y passe du temps. Moi, je vous propose d'avancer. Juste peut-être, redire, si vous utilisez du logiciel libre, c'est une distribution Debian, etc. A priori, c'est corrigé. Et de manière générale, que vous utilisez du libre ou pas, maintenez vos systèmes à jour. Je pense que c'est une bonne pratique d'hygiène. Je vous propose d'avancer à notre place suivante. Alors un autre sujet un peu complexe, Pierre, tu voulais l'aborder la dernière fois, on n'en a pas parlé, ça parle pas directement de logiciel libre, mais c'est les questions aussi de licences, donc on revient finalement, on parle de liberté informatique, et là de dépendance à des licences, et là avec une illustration très précise, en fait. Donc, VMware, alors je crois que c'est une boîte qui maintenait un logiciel dont dépendait, donc qu'utilisait énormément d'entreprises. Alors, tu vas nous préciser de quel logiciel il s'agit. Donc, a été racheté par Broadcom, qui est une multinationale américaine. Et qui a eu littéralement, et parce qu'elle le pouvait, parce que là on parle d'une licence propriétaire, elle a acquis la maîtrise de cette licence, a décidé de son côté, parce qu'elle en était capable, d'augmenter, mais je crois dans du x10, le prix des licences, tout en modifiant en plus, dans des conditions moins favorables, je crois, l'utilisation du logiciel, et ça a fait énormément de bruit dans les très nombreuses entreprises qui utilisaient ce logiciel, mais je crois un logiciel très répandu et incontournable même.
Alors oui, ça s'appelle VMware, c'est ce qu'on appelle un logiciel de virtualisation, c'est-à-dire ça permet de faire tourner plusieurs systèmes, plusieurs machines sur une seule machine physique. Donc on a des machines virtuelles et c'est très utilisé, notamment dans le cloud. Les clouds Amazon sont basés là-dessus, les clouds de Microsoft, etc. également. C'est un logiciel qui est pas mal utilisé par des entreprises quand elles veulent mettre en commun leurs serveurs et optimiser l'usage de leurs serveurs et la gestion, l'administration de leurs serveurs. Et donc c'est un logiciel commercial. Je connais pas les tarifs exactement ni les conditions de licence, mais c'est un logiciel qu'il faut acheter. Il y a une version gratuite, je crois. Il y a eu une version gratuite à une époque. Et du jour au lendemain, Broadcom, donc qui a racheté la boîte. A décidé, en étant en position de force, hein, en position peut-être pas monopolistique, mais en position commercialement très favorable parce que son logiciel est très apprécié. Et après, c'est aussi toute l'histoire de l'écosystème. T'as des logiciels équivalents qui permettent de remplacer ça, mais il faut tout refaire chez toi. Enfin, faut tout réinstaller. En gros, c'est comme quand tu veux faire ta cuisine avec un autre fabricant. Il faut tout virer et tout refaire. Même si à la fin t'as quand même une cuisine et ça revient au même. Donc en fait, t'es pieds et poings liés avec eux et ils ont essayé d'en profiter avec leurs clients en monétisant au mieux leur position de force, c'est-à-dire en augmentant brutalement les prix. Alors ils ont complètement revu leur offre commerciale pour upseller, comme on dit, hein, c'est-à-dire vendre aux utilisateurs plus que ce qu'ils avaient demandé initialement. Et donc les utilisateurs se plaignent forcément parce qu'ils voient leur facture flamber entre 10 et jusqu'à 40. J'ai eu des exemples assez hallucinants. Donc les gens se retrouvent en fait, ça change l'équation parce que l'équation c'est souvent de dire bon, on va pas prendre du libre parce que il manque des morceaux. On va pas prendre tel fournisseur parce qu'il manque des morceaux. Là, j'ai toutes les en main chez tel autre. Ça me coûte moins cher à la fin parce que moi, mon activité, c'est pas d'aller faire des petits bouts de chewing-gum pour relier de l'infrastructure. Moi, mon métier, c'est aller, je sais pas quoi, vendre des taxis ou vendre ceci ou cela. Donc, j'ai pas envie de passer du temps. Je vais acheter quelque chose de clé en main, commercialement adapté à ce que je veux faire, parce que ça me revient moins cher au final. Mais évidemment, quand la facture est multipliée par 10 du jour au lendemain, ça rebat complètement les cartes et ça peut inciter à réétudier l'équation commerciale qu'on doit proposer. Il y a eu le même genre de... Sur une durée plus longue, il y a le même genre de choses avec les bases de données Oracle. Oracle, c'est un grand de la base de données, donc c'est un élément qui était longtemps critique, enfin qui est critique dans pas mal de systèmes informatiques, et pour lesquels il n'y avait pas vraiment d'équivalent libre. Et au fil du temps, il y a des bases de données libres comme MySQL, Postgres qui se sont améliorées en fait, qui ont complété en fonctionnalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que 90% des usages d'Oracle peuvent être remplacés facilement par du libre. Mais il faut tout refaire. Et donc en fait, Oracle, à force de pousser le bouchon, a incité les clients au bout de 20 ans, quand les clients refont leur système à zéro, plutôt que de prendre l'offre commerciale qui coûte très cher, ils prennent du libre parce que ça convient parfaitement aux besoins en fait.
Pour préciser, c'est vrai que dans une situation vraie équivalente, si plein de boîtes dépendaient d'un logiciel libre et qu'il y avait eu un rachat et que alors on peut pas vendre, c'est plus la prestation de service, donc on peut dépendre de différentes manières, mais avec du logiciel libre, on n'est jamais à ce point. Structurellement, n'est jamais à ce point enfermé, quoi, et complètement dépendant. Parce que là, soit ils continuent et ils acceptent de payer ces tronçons quelque part, soit ils repartent à zéro, ils doivent complètement changer leur infrastructure, leur fonctionnement, quoi.
Ah ben là, ça change complètement les équations. Donc, après, je pense qu'il y aura un petit peu suivant les cas particuliers, il y a des gens qui vont décider de payer, puis des gens qui vont décider de migrer sur autre chose. Sachant que la migration n'est jamais facile non plus, parce que même si tu décides de remplacer, c'est des mois de travail facilement.
C'est pour ça que c'est bien de le faire avant d'avoir des gros problèmes, comme nos amis du Land allemand qui ont décidé peut-être de sortir de Microsoft avant de se prendre des augmentations de prix de licence, on ne sait pas. Merci beaucoup pour cette présentation et je trouvais que c'est une manière intéressante de souligner cet enjeu de la dépendance. Ça faisait écho bien du coup avec la première actu. Est-ce que vous voulez réagir, Florence ? Est-ce que du coup on a sauté en fait l'actu qu'on avait prévu avant ? Désolé à mes camarades autour de la table, juste du pertinent, ça va pas. Mais ça nous servira de dessert du coup, ce sera très bien. Mais est-ce que vous voulez réagir, Pierre ? J'étais un peu interrompu, mais si tu as d'autres choses que tu voulais encore dire, Florence, Isabelle, si vous voulez réagir.
Moi, j'ai un petit côté quand on fait un choix, quand on fait un choix de logiciel ou d'architecture, on aura tendance à se renseigner autour de soi et plutôt suivre un mouvement de foule, en tout cas de se dire, vu que mes pairs font ça, il y a un facteur rassurant. Et on l'a vu effectivement sur Oracle ou sur VMware qu'on peut aussi tous être dans la mouise, en réalité, tous ensemble. Et quand il y a des arguments qui pèsent dans le sens, mais auxquels on fait pas attention au moment de faire le choix, de se dire à quel point on est libre, à quel point on pourra quitter cette solution si ça pose problème. Le fait qu'on soit nombreux ou nombreuses permet de nous dire « Ah non, mais c'est le bon choix ». Et des fois, j'ai l'impression qu'on préfère se tromper tous ensemble que prendre le risque d'être à l'écart et de gérer au cas où il y a un problème. Mais par contre, je serai toute seule ou tout seul. Et je pense que ça, dans nos décisions de gouvernance, c'est quelque chose qui est très, très dur. Parce qu'en plus, on passe pour quelqu'un d'un peu, peut-être anxiogène en disant « Ah oui, mais on peut pas gérer tous les cas. Ah oui, s'il y a une bombe atomique, s'il y a la guerre, s'il y a un rachat. » Mais ce sont réellement des choses qui arrivent sur des postures monopolistiques, là, pour le coup. Donc, moi, je trouve ça super intéressant que ce soit arrivé. Et l'autre point que ça soulève en moi, c'est le changement du modèle. Du coup, tu l'as dit, les prix ont flambé. Et c'est aussi un changement de consommation. Parce que jusqu'ici, c'était un paiement one shot. Et là, il bascule
en
sur
une
un...
fois.
Voilà, pardon. Merci de me reprendre. en une fois. Et il bascule dans un modèle qui se fait de plus en plus sur l'usage, sur l'abonnement, en disant, tous les mois, on va payer. Et c'est là où c'est l'enfer pour les personnes qui souscrivent à ça, parce que forcément c'est plus, ça veut dire qu'on perd un peu du contrôle. Et ça paraît fou et pas possible, mais en fait, effectivement, dès qu'on se fait racheter, dès que l'outil, même sans rachat en fait, c'est que c'est pas nous qui décidons de la tarification, donc tout peut changer du jour au lendemain. Et je faisais le parallèle avec la brique de tout à l'heure, où je me disais, mais du coup, c'est presque drôle, mais si je me disais qu'aujourd'hui j'achète une brique, je fais mon mur, le mur, il est à moi. Là, on arrive quand même dans un modèle où j'achète la brique et tout, chaque année qui passe ou chaque mois qui passe, je paye un abonnement. Effectivement, ça paraît inconcevable. Et je trouve qu'il y a vraiment que dans le logiciel où on se permet quand même de faire ce genre de changement de modèle comme si c'était tout à fait normal, alors qu'à la base, c'est pas des services, c'est des produits pour le coup.
Je trouve que ça ferait un lien très intéressant avec le dessert qu'on a prévu. Alors, je ne veux pas interrompre s'il y avait un dernier mot à dire, mais très court, Pierre.
Effectivement, les éditeurs de logiciels jusque-là, vendent le logiciel à l'unité. Donc, on est censé, entre guillemets, le posséder. Et effectivement, ça va tout à fait faire la transition avec la suite. Mais effectivement, ils ont envie d'un modèle où ils ont un revenu récurrent garanti sur la durée. Donc, tu n'es plus client, tu ne payes plus, tu n'es plus client, tu n'as plus de logiciel. Donc, c'est effectivement, ça met les clients en position de vulnérabilité et de nécessité de payer la maintenance et faire l'évolution du logiciel sur la durée.
Et dans un cas, là, ces propriétaires, ils rançonnent, en fait, ils font du bénéfice sur le fait qu'on soit dépendant du logiciel, là où sur du logiciel libre, ça va être plutôt, en fait, c'est par la notre qualité de service, en général, qu'on va plutôt s'assurer de cette... je sais pas, rien n'est magique non plus, mais pour mettre un avis tout à fait biaisé sur la question, et je vous propose donc de passer à notre dessert. Donc il nous reste un peu moins de 10 minutes, mais je trouvais que cette actu, je crois que c'est Pierre à nouveau qui nous l'avait partagé, le jeu en ligne de course de voiture The Crew de Ubisoft n'est plus jouable depuis le 1er avril. Et alors si certains joueurs joueuses qui avaient pu acheter le jeu visiblement ont pu être remboursés, c'est pas du tout le cas de tous, ce jeu a plus de 10 ans visiblement, autour de 10 ans. Et donc voilà, c'est un jeu sur lequel on jouait en ligne, c'est-à-dire que je connais pas le fonctionnement d'Ubisoft, mais j'imagine sans mal qu'on devait passer par une plateforme où on était inscrit, qui nous permettait de nous connecter aux jeux qui tournaient sur les serveurs d'Ubisoft. Et puis on avait ces jeux et tout d'un coup on ne peut plus y jouer. Alors j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui jouaient depuis des années, qui adorent ces jeux, qui ne peuvent tout simplement plus y jouer. Et c'est là où ça fait le lien, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas vraiment leur jeu, ils louaient un service qui était la capacité, la possibilité de jouer à ce jeu. Alors, qui veut ouvrir le bal de ce débat ? Vas-y, Isabelle, tu t'es moins parlé. T'as moins parlé sur le sujet précédent.
Ah, j'ai même pas du tout parlé parce que j'y connaissais rien du tout au sujet précédent. Mais par contre, moi, je croyais que le dessert, c'était pas celui-là. Il y avait parce que. Ou alors, j'ai confondu. C'était dessert, fromage et dessert, je sais pas.
Ah, moi, alors, ce sera soit le fromage, soit le dessert. On verra en fonction du temps.
Je croyais que c'était l'effet DMA, moi, le dessert. Non, c'est pas lui. Bon, on verra si on
a passé plus de temps.
Alors, Ubisoft.
Si on peut, on fera le DMA.
Je sais pas si grand chose à dire d'Ubisoft parce que je ne joue pas aux jeux vidéo. Je connais cette société-là et je comprends un peu l'idée, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des gens qui disent « Ah, mais quand même, j'avais payé pour avoir tel jeu, tel accès à un jeu, et là, soudainement, Ubisoft, de son propre chef, décide tout seul de changer sa façon de faire et donc de m'empêcher de jouer de cette façon parce que j'ai plus accès à tel et tel truc. » Moi, ce que je comprends quand même, c'est que de toute façon, dans ces marchés-là, il n'y a pas un contrat dans lequel tu signes, puis il n'y a pas des choses avec une partie très très précise, quoi. Et que ben, quand tu n'as pas un contrat, ben, effectivement, il y en a un qui fait ce qu'il veut.
Il y a un contrat, c'est une contractualisation.
Il y a un contrat, mais c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle les DRM, en fait. Enfin, c'est géré avec des mesures techniques permettant au détenteur des droits de faire ce qu'il veut et de t'enlever l'accès s'il le juge bon. Et en général, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est prévu dans les contrats que personne ne lit. Mais,
les DRM, c'est des mesures de restriction d'usage.
C'est ça. C'est Digital Rights Management, donc gestion des droits, voilà. Et en fait, effectivement, c'est fait pour t'empêcher de copier le jeu comme tu l'entends, tout un tas de choses. D'ailleurs, quelqu'un avait dit si je ne suis pas propriétaire du jeu quand je l'achète, c'est que je ne suis pas un voleur quand j'en fais une copie illégale. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, mais oui. Ça s'entend. Et effectivement, les gens pensent. Enfin, ça pose aussi le problème des objets connectés dont le fabricant arrête le service qui est derrière. Ça pose le problème d'obsolescence. Alors, j'aime pas le terme d'obsolescence programmée, mais ça pose le problème de la pérennité de ce qu'on achète et du fait que, notamment, en termes de médias électroniques aujourd'hui, on n'a pas forcément les droits qu'on croit avoir. En termes de pérennité sur ce qu'on achète. Et pour un jeu vidéo, effectivement, ça peut être embêtant. Et en particulier, des jeux en ligne. Alors, à la rigueur, un jeu sur lequel on joue en local, comme on faisait à l'ancienne, mais c'est de moins en moins fréquent, on peut espérer conserver les droits vitam aeternam. Mais sur un jeu en ligne où l'éditeur décide du jour au lendemain d'arrêter ses serveurs et ce qui rend le jeu complètement inutilisable, ça pose quand même des soucis enfin, on est à la limite de la tromperie, en fait. Même si c'est certainement prévu dans le contrat, les gens peuvent légitimement s'estimer lésés par l'arrêt du service.
Ah, je sais pas, ça pose quand même d'abord la question de la dépendance, non?
Ah, alors ça, encore autre chose, je ne sais pas.
Non, mais dire la dépendance des gens à cette affaire-là.
C'est la dépendance technologique, tu veux dire?
Oui, numérique, globalement, c'est-à-dire de quoi parle-t-on, en fait? Si des gens arrivent à se sentir lésés parce que quelqu'un a fait ce qu'il a. Il avait le droit de faire, donc c'est ça que je voulais dire, dans le fait qu'il n'y avait pas de contrat, dans le sens où on n'a pas personne, enfin Ubisoft, j'ai pas vu qu'Ubisoft avait dit je te promets que toute la vie de la tienne, pas la mienne, il y aura ce jeu là pour toi. Enfin, on sait très bien qu'une société, elle peut disparaître, elle peut changer de
braquet. Oui, mais quand t'achètes un livre, si l'éditeur fait faillite.
C'est quoi un objet numérique?
Mais dans le numérique, où est-ce que tu vois un endroit sur lequel on peut dire ça?
Oh bah, les jeux entre guillemets à l'ancienne, les jeux
c'est
édités
ce que je dis, pas numérique.
Bah si, les jeux numériques pour ordinateur, les jeux vidéo d'il y a 30 ans.
Où est-ce que c'est du rétro gaming
avec des jeux que tu peux encore faire tourner?
Parce que moi je trouve ça intéressant, c'est qu'effectivement il y a une vraie raison, c'est que ça tournait sur les serveurs d'Ubisoft et bon, on peut légitimement se dire qu'ils font ce qu'ils veulent avec leurs serveurs. Par contre, si on avait accès à la capacité d'installer le jeu chez soi et puis si on a les compétences ou si on veut trouver des gens qui ont les compétences d'installer son propre serveur et puis pouvoir se faire son jeu sur ses propres serveurs localement ou à d'autres. Là, c'est possible parce qu'on n'a pas les droits. En fait, ça montre aussi que dans le logiciel des jeux, enfin dans les jeux aussi qui sont des logiciels, c'est en jeu de liberté d'usage. Puis les quatre libertés en général restent prépondérantes, quoi. Enfin...
Ouais, non, je comprends ce que vous voulez dire. Juste, je pousse le bouchon parce que je trouve ça intéressant. Quand tout à l'heure tu disais, la conclusion à ce qu'on vient de dire, c'est qu'il faut absolument faire les mises à jour régulièrement. Ok. Et s'il n'y a plus personne qui les fait, les mises à jour, tu fais quoi?
C'est un enjeu collectif.
C'est quand même un enjeu collectif dans lequel on a chacun une place et que tout joueur ou joueuse qu'on soit ou pas, on est censé réfléchir à cette place qu'on a. Et donc.
Ouais, mais c'est vrai. Mais c'est un peu la question de la lecture des contrats auxquels on s'engage. Quand tu dois lire 30 pages de juridique avant d'acheter un jeu, c'est difficile.
On est seul face à nos contrats et cette question de se réapproprier collectivement nos usages, nos objets culturels, que ce soit de la musique ou là des jeux vidéo.
Et puis en discuter.
Et d'en discuter.
Que ça soit parlé. Où est la transparence dans ces trucs-là? Il n'y en a pas.
Ah, bah là, oui, en l'occurrence. En théorie, il y en a, mais en ouais, pratique, en oui, pratique, c'est le,
ouais, qu'on est d'accord. Moi, c'est le but aussi de parler de ça, c'est de se poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'on achète vraiment? Là, on était plutôt dans un système, on a l'impression d'acheter quelque chose, mais en fait, on le loue, mais on paye pour un accès tant que l'entreprise le veut bien, quoi. Et il y a des enjeux de droit. Alors moi, ça m'évoquait, c'est une histoire qui est très connue parmi les libristes. C'était, alors je sais plus du tout en quelle année, mais Amazon avait, pour des questions de droit, ils avaient supprimé dans les liseuses électroniques d'Amazon, donc ils étaient connectés chez les gens pour supprimer un livre, et pas n'importe lequel, de 1984 de George Orwell, parce qu'il y avait un changement de droit. Et alors, je crois qu'ils ont reconnu que c'est maladroit la manière dont on l'avait fait, mais quoi qu'il en soit, ils ont unilatéralement, ils sont rentrés dans les liseuses électroniques et ils ont supprimé les fichiers. Parce que ben ils ont considéré voilà, il y avait plus le droit, parce qu'il n'y a plus les droits, vous pouvez plus le lire, vous avez besoin d'acheter le livre.
Plus récemment, tu as une boutique de musique en ligne. Alors je crois que c'était quelque chose d'une grande major, alors je veux pas dire de bêtises, donc je ne donnerai pas de nom, mais ils ont fermé le service en ligne du jour au lendemain. Donc les gens qui avaient acheté tout un tas de CD, enfin pas de CD, mais de morceaux musicaux, qui pensaient les avoir acquis et éternellement, ont perdu leur catalogue, en fait.
C'est la question de la dépendance.
C'est ça. Ouais.
Moi, je trouve ça très drôle. Non, ça ne m'amuse pas. Mais si, je trouve pas ça drôle, comment on est. On joue pas, mais...
Il va y avoir des lettres d'insultes à la radio.
Je regarde le temps passé.
Dans le sens où ça pose des questions qui sont pour moi hyper naturelles et normales, qui voudraient se poser. Et c'est comme si les gens ne s'étaient pas posés, quoi.
Je vois qu'il est 46-30, on n'aura pas avoir le temps de faire le dernier sujet d'EMA. J'en suis désolé, ce qui était intéressant, savoir que en Europe, visiblement, les plus petits navigateurs, parce qu'il y a eu un changement de loi, prennent des parts de marché, parce que notamment Google et Apple sont obligés de leur laisser un peu de place, et donc ça, c'est plutôt positif. Mais Florence, tu t'es pas exprimée sur ce sujet, je voulais laisser au moins un peu de place.
En vrai, moi, je rejoins Isabelle. Étant de l'autre côté, mais jamais de la vie, je vais fournir le support d'un logiciel ad vitam aeternam. vraiment jamais. Et même, je me posais la question inverse. Est-ce que c'est possible, avec l'évolution du matériel, de vraiment aujourd'hui garantir des usages avec le cycle de vie de nos ordinateurs ou mobiles? Et je ne crois pas. Et en même temps, je t'entends quand tu parles du livre, mais moi, en tant qu'usagère, c'est vrai, je me dis, tout ce qui est connecté à Internet, pour moi, ne m'appartient pas. En gros, c'est qu'on va venir, on supprime, on met à jour, ou alors faut refuser toutes les mises à jour. Mais je suis triste pour les joueuses et joueurs de The Crew qui sont sentis lésés.
Ah oui, mais je voulais dire ça. Oui, moi aussi, je suis très triste, je rigole. Mais non.
Il y avait un proverbe comme ça, les vieux ordinateurs ne meurent jamais, ils sont émulés.
Pardon.
Les vieux ordinateurs ne meurent jamais, ils sont émulés.
D'accord.
Oui, c'est vrai. Mais c'est des hacks. Je pense que The Crew, on trouvera une façon ou une autre peut-être de rejouer. Mais oui, c'est vrai. J'ai pas mieux. J'ai pas mieux. En tout cas, c'est un coup, l'informatique, c'est vrai. Et que du coup, on peut pas tout le temps se mettre à jour sur tout. Sinon, ça veut dire qu'on a des équipes sur tous les produits, ça fait qu'augmenter, en fait. Oui, donc, oui. À un moment, on est obligé de...
Après, tu as quand même des sociétés
continuer cette conversation. Là, on a une autre chronique que j'aimerais pouvoir entendre pleinement, quelques infos. Mais en tout cas, merci à tous les trois, donc à Florence, Isabelle et Pierre de nous avoir rejoints pour ce Café Libre. Bien sûr, merci à vous de nous avoir écoutés.